Les voix du livre. Une émission proposée par Claire Garand, biographe, chez mémorialiste.fr. Alors aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière, puisqu'au moment où nous enregistrons, eh bien, les studios de Bac FM sont fermés et nos chroniqueurs, Fanny De Sitre de la librairie Le Cyprès Jean de la Lune et l'ado accro au livre, sont aujourd'hui confinés. Comme tout le monde. Voilà, alors malgré cette situation un petit peu compliquée, eh bien j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui par téléphone Pascal Emery, artiste, peintre et graveur, qui crée et travaille entre Paris et la Bourgogne.
Bonjour Pascal.
Bonjour, bonjour Claire.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation en ces temps un petit peu étranges où tout le monde mesure un peu plus, s'il en était besoin, l'importance de l'art, des livres. Les musées sont fermés, les galeries d'art aussi, les théâtres, les librairies, les salons sont annulés. Donc la situation est tendue pour tous les acteurs culturels, mais vous, vous êtes là pour nous parler de votre création et de votre rapport au livre. Merci beaucoup. Alors, Pascal Emery, on vous connaît bien pour vos gravures, bien sûr, mais vous vous tournez aujourd'hui davantage vers la peinture. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce changement et de votre parcours ?
Oui, eh bien, écoutez, si tout est fermé, en tout cas, le peintre, lui, continue à peindre et à travailler. C'est même peut-être un moment très fort pour moi, puisque ce calme, cette tranquillité, c'est souvent celle que j'ai à l'atelier lorsque je travaille. Et pour parler de mon parcours, effectivement, j'ai eu un parcours d'artiste. J'ai été à l'école des beaux-arts, je suis sortie, et puis depuis pas mal de temps, j'expose régulièrement dans des galeries en France et à l'étranger. Et j'ai commencé ma recherche artistique par le dessin. Et le dessin m'a conduit à explorer beaucoup en gravure, puisque la gravure donne un relief au dessin, il lui donne une puissance. Et la gravure m'a conduit, j'ai beaucoup travaillé en gravure sur bois et en couleur. J'ai développé une technique qui m'est propre de gravure selon la technique du bois perdu. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais enfin, bon, ça peut se faire, mais ce que j'ai exploré, c'est davantage la couleur. Donc, évidemment, ça m'a conduit à la peinture. Et la peinture, c'est une manière différente de voir les choses, mais ça m'a aussi permis d'élargir mon champ d'action artistique, au point de vue artistique.
Et justement, qu'est-ce que ça change pour vous, le passage à la peinture dans votre démarche artistique ? Qu'est-ce que ça vous ouvre comme nouvelle perspective ?
Ben, en fait, c'est une toute autre approche. Alors, il faut peut-être que j'explique quand même. Disons que c'est une toute autre approche de mon travail artistique, mais il faut quand même que j'explique un peu plus. C'est-à-dire que si j'ai dès le début mis au point une technique qui m'est propre de gravure, j'ai aussi trouvé mon sujet qui est la ville. Mmh. Et j'ai longtemps travaillé directement sur le motif pour représenter ce qui m'entoure. Puis, c'est au cours de mes voyages que s'est cristallisée ma propre manière de créer. Et je suis une artiste contemporaine, je me sers aussi de la photographie et de beaucoup de documents. Donc, mm-hmm. Je travaille à l'atelier. Et ma technique de gravure, c'est une technique qui décompose la couleur. Donc, j'utilise quatre couleurs pour représenter un paysage urbain. Pour représenter New York, par exemple. Mm-hmm. Bon, mais la peinture, ça permet bien sûr de travailler la couleur dans une plus grande intensité, mais on travaille différemment. C'est-à-dire que moi, je mets les couleurs les unes à côté des autres. En peinture, je travaille par couche, par superposition. Donc, ça me demande un temps beaucoup plus long. Ce qui est intéressant en gravure, en peinture, c'est que, c'est pas du tout. Faut jamais se fier au résultat, à l'effet que produisent les couleurs. Les couleurs sont souvent nous arrivent aux spectateurs de manière très forte et on croit que la peinture c'est d'une certaine manière. Et en fait, il faut oublier tout. Il faut travailler la structure. La structure est d'autant plus forte. Donc le dessin est d'autant plus fort. Ah oui. C'est encore un moyen d'expérimenter, de tester son dessin, voir justement son projet, quoi. La première composition est une composition dessinée et la peinture est un test à nouveau.
Donc on revient à la base, en fait, à la base.
Voilà,
de le dessin.
À chaque fois. Voilà, à la structure. Et ce que permet la peinture, par contre, c'est un nouveau jeu, c'est un autre système de pensée, c'est une autre manière de voir.
Est-ce que
c'est un langage aussi?
Quand vous appréhendez la peinture par rapport à la gravure, est-ce que ça vous oblige à penser différemment avant de vous mettre à peindre par rapport à ce que vous faisiez avant de graver? Est-ce qu'il y a une réflexion différente, une manière d'aborder la chose différente avant même de commencer à faire, à mettre le premier trait?
Alors, ben je dirais oui et non, parce que d'une certaine manière, de toute façon, c'est souvent difficile de se regarder en train de faire. Hein.
Oui.
Je crois que je commence comme d'habitude, normalement. Je monte un projet, donc je commence par un premier dessin qui est reporté sur la toile. Et ensuite, effectivement, je procède lentement. Je commence à mettre une première, à poser une première couche. Mais souvent, ce que je m'aperçois, et je m'en étais aussi quand même intuitivement, la gravure, l'expérience de la gravure m'avait donné ça, c'est que souvent tout ce que l'on se représente, tout ce que je me figure que je vais faire, m'amène pas là où la peinture doit m'amener. En fait, lorsque je peins, le mieux c'est que j'oublie tout ce que je sais, tout ce que j'ai préconçu, pour me laisser aller à la sensation. Et parfois, l'expérience de la main et les sensations sont un guide plus fiable
que la réflexion, finalement. Vous vous laissez
penser. La réflexion qui a tendance parfois à trop diriger, à trop dire ça, commander, c'est-à-dire ça c'est pas bien, ça c'est bien, et tout ça en fait, cette pensée, c'est pas la pensée de la peinture. La pensée de la peinture, la pensée de la peinture, c'est plus de se laisser aller, entre guillemets, mais sans toutefois se laisser aller, mais se laisser porter par ses propres sensations, par ses intuitions, et souvent l'erreur, par exemple, les erreurs que la pensée se dirait, mais non, il faut pas faire ci, il faut faire ça. Au contraire, les erreurs sont souvent des moyens d'avancer, d'aller justement à un nouveau prétexte pour ajouter une nouvelle couche. Et c'est ainsi que ma peinture commence à prendre de la densité.
Ah oui. Et est-ce que justement cette manière de réfléchir et de ne pas réfléchir, est-ce que c'est aussi votre manière d'aborder l'illustration? Parce que vous avez beaucoup travaillé en tant qu'illustratrice, et là il faut quand même, il y a un texte préexistant. Est-ce qu'il faut réfléchir? Est-ce qu'il faut se laisser aller? Comment est-ce que vous procédez?
Alors oui. Alors l'illustration c'est un peu différent. Alors, j'ai beaucoup appris l'illustration. Et alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que souvent on considère l'illustration comme un art secondaire. Et moi, ça a été mon école d'apprentissage. Si vous voulez, il y a un artiste qui s'appelle Edward Hopper, qui est connu, et qui a un très bel exemple de ces peintres qui ont tiré un grand profit de leur expérience d'illustrateur. Parce que, au fond, une illustration, c'est l'image qui doit, au premier coup d'œil, résumer le texte et l'égayer. Donc, en fait, il est impossible ça doit être une image très efficace. Et il faut pas se tromper. Il faut que sa composition soit forte et parfaite.
Oui.
Donc, c'est une force graphique. Et la force graphique, me touche énormément. Vous savez, le monde de l'affiche et de l'illustration me stimule, en fait. J'ai envie de, c'est une manière un peu d'apporter ce monde-là à la peinture. Et j'aime bien brouiller les lignes aussi, passer de l'un à l'autre.
Et c'est un petit peu ce que vous avez fait quand vous avez créé Capital avec Michael Edwards.
Oui, tout à fait. Et ce que j'aime aussi dans Capital, c'est un livre d'artiste c'est un livre d'artiste. Donc ce sont des dessins qui regardent les poèmes de Michael Edwards. Et ce livre a été édité par un lithographe qui s'appelle Bruno Robe. Mm-hmm. C'est un lithographe belge. Et
vous pouvez souvent raconter un petit peu la genèse de ce projet original, parce qu'il est quand même assez exceptionnel, le projet Capital.
Ben, je vous remercie. Au fond, c'est parti d'une idée au cours d'une discussion que j'ai eue avec Michael Edwards, qui est académicien et bourguignon. Il est poète, essayiste, et nous avions fait un livre ensemble sur Paris, et nous avons décidé d'en faire un nouveau sur les villes d'Europe. Donc chaque page serait un poème et une ville. Et ce Capital renferme donc 10 poèmes et 10 en double page, donc et 10 dessins. Oui. Et voilà. Donc ensuite il s'agissait de trouver un éditeur et l'éditeur que j'ai rencontré, Bruno Rome, m'a proposé une technique très intéressante de report de mes dessins en lithographie. Donc en fait, c'est un travail à 6 mains, c'est un travail une collaboration, c'est tout, et c'est ça que j'aime aussi. Ce sens du travail, de la collaboration me plaît beaucoup parce que c'est comme en peinture, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout comment le livre, l'objet sera à la fin. J'aime bien justement avoir cette surprise.
Oui, donc c'était vraiment une surprise parce que la lithographie de vos œuvres, c'était une première ou vous en aviez déjà fait?
J'en avais déjà fait, mais là, ce procédé particulier imite vraiment le dessin et lui donne aussi une force. Et puis Bruno Robe a aussi fait la mise en page du livre. Donc tout ça, par moi-même, je ne l'aurais pas imaginé. Et c'est ainsi que le texte et l'image se rencontrent et trouvent leur force.
Et là
aussi la beauté de l'objet.
C'était une surprise. Ah, ouais. Au final, vous avez été surprise par le résultat, en fait.
Ouais, tout à fait. Oui. Et alors ça, cette surprise, elle renvoie beaucoup à la gravure. Vous savez, lorsqu'on imprime et que la feuille est passée sous la presse, et tout d'un coup, on lève, comme en lithographie, on lève la feuille, et là, on découvre son dessin à l'envers. Mais on découvre un nouvel univers. C'est la beauté d'un livre aussi, hein. Et là, de tout ce passage, tout ce travail, cette collaboration avec un écrivain, un éditeur et cette rencontre, en fait.
Donc, c'est pour ça que le résultat est aussi surprenant pour le lecteur. On voit cette surprise, le regard de la partie visuelle et de la partie qui se lit. Qu'est-ce qui a été premier? Est-ce que c'était d'abord les textes ou est-ce que ça a été conçu en même temps, l'illustration et le texte?
Non, alors j'ai d'abord reçu les textes et j'ai mis beaucoup de temps en fait j'ai mis du temps à réaliser les dessins. Mais pour moi l'enjeu c'était de trouver justement mon propre espace par rapport au texte, sans toutefois m'en éloigner, mais en même temps ne pas être en dessous du texte, mais à côté, collé au texte. Et ce n'est jamais évident de trouver justement son propre espace de création à côté d'un créateur et à côté d'un texte. Et il ne s'agit pas de copier, mais de trouver une autre écriture au fond. Oui. Et alors, ce que j'aime beaucoup finalement, alors évidemment, ça c'est très évident, la gravure, elle est très proche de la littérature. Enfin, moi, j'ai toujours eu ce sentiment que le monde de la gravure, mais aussi de la peinture, puisqu'il y a eu de Picasso, enfin d'autres, de nombreux peintres se sont adonnés à faire des livres d'artistes. Et puis, c'est peut-être cette idée de vouloir aussi, à travers une image, raconter une histoire.
Oui, là, et effectivement, ça raconte plusieurs histoires, c'est vrai.
Voilà, sans toutefois les dire, mais que justement, les poèmes de Michael évoquent aussi des images par l'écrit. Voilà, il y a cette rencontre entre les deux.
Quand nous avons préparé l'émission, vous m'avez aussi parlé de ce qui évoquait pour vous des images. C'était la musique. Vous écrivez, vous écoutez souvent de la musique pendant que vous peignez ou que vous dessinez. Qu'est-ce que vous apporte de cette musique ?
Mais la musique, en fait, elle me détend. En premier, c'est une vraie détente et elle m'aide à me détacher justement, à moins penser, mais elle ouvre, j'ai l'impression qu'elle ouvre des champs de nouveaux, de perception, que l'oreille est sensible et c'est comme si ça me donnait des idées, mais des idées qui sont pas forcément énoncées. Et ainsi, je me sens plus proche de mes sensations et je me laisse guider par la main.
Et quelle musique en particulier vous aide à vous laisser guider par vos sensations ?
Alors, il y a c'est vrai que j'ai une préférence pour la musique classique, mais j'aime beaucoup aussi la musique indienne parce que c'est comme si le temps était infini, une musique qui s'arrête jamais. Et lorsque je peins, j'ai aussi cette impression que d'abord ça m'aide à rester longtemps rester confinée finalement. Il faut rester attelé à son atelier pour travailler, il faut rester longtemps et que la musique me fait entrer dans le temps de la peinture finalement, dans son temps long qui n'en finit pas mais où il y a un renouvellement et une prolongation, en fait.
Alors, justement, vous parlez de votre atelier. Vous avez un atelier à Paris, un atelier en Bourgogne. Qu'apportent ces deux ambiances très différentes à votre art ? Parce que vous allez créer plutôt dans l'un certaines choses, peut-être, et dans l'autre, d'autres œuvres. Qu'est-ce que ça vous apporte ?
En effet, je pense que les lieux nous apportent beaucoup, nous changent nos manières de faire. L'atelier en ville, en ville, je me sens plus stimulée, plus stimulée en gros. Depuis 12 ans, nous avons une maison à la campagne et mon projet, c'est de m'y installer. Et j'ai souvent travaillé pour des courtes périodes dans la Nièvre. Il y a une détente, je suis émerveillée parce que c'est comme si je me retirais un peu de la ville pour penser mieux, pour me détendre mieux et me concentrer plus sur ma peinture. Et alors aujourd'hui, en ces temps un peu étranges, c'est l'atelier que je suis en train, enfin qui n'est pas tout à fait aménagé, mais qui là j'ai maintenant devient presque essentiel en fait. C'est une force. Hein. Je me sens vraiment bien ici et que la nature est propice à la création. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Voilà. Et peut-être que une retraite est nécessaire pour mieux peindre. Enfin, je crois que c'est un peu le parcours de nombreux peintres lorsqu'on pense aux grands peintres comme Marquet, Picasso, qui avaient souvent des ateliers dans divers endroits, et tant d'autres, en fait. Et puis, évidemment, ce qui me stimule ici, c'est que je vais avoir plus d'espace. Et de plus, j'ai fait de très belles rencontres avec d'autres artistes et qui me sont très importantes. Donc la ville commence à s'éloigner, mais je pense que ça ne m'empêchera pas de peindre la ville, bon, qui est mon sujet, je pourrais peindre d'autres choses, mais après tout, les villes silencieuses sont de mise aujourd'hui.
Effectivement. Alors justement, vous parliez de vos peintures et de la ville. Vous exposez actuellement à Arcurial. Quelle va être votre actualité dans les mois qui viennent?
Alors malheureusement, Arcurial en ce moment est fermé, donc l'exposition durera peut-être un peu plus de temps. Enfin, va se prolonger peut-être un peu jusqu'en juin. Je ne sais pas encore. Pour tout vous avouer, j'ai beaucoup exposé l'année dernière. J'ai fait 5 expositions. Donc, mon actualité aujourd'hui, c'est de retrouver le chemin de l'atelier et de créer.
Pour préparer les prochaines expositions.
Voilà, voilà. Je poste régulièrement sur mon site mes œuvres récentes.
Mmh. Donc le site c'est pascal-emery.com, je le dis pour les auditeurs,
voilà.
pascal-emery.com, oui.
Et de toute façon, voilà, c'est assez nécessaire pour préparer une exposition. Ben il faut du temps, il faut passer du temps à l'atelier et c'est le temps que je me donne aujourd'hui.
Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup, pascal-emery, d'avoir répondu à notre invitation en ces temps troublés. Et j'invite bien sûr tous les auditeurs à aller consulter votre site, donc pascal-emery.com, pour y retrouver une présentation de vos derniers travaux. Et bien, l'émission Les Voix du Livre vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures livresques que nous espérons non confinées dans les studios de BAC FM.